Il est à présent l'heure de retrouver Bruno et l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Rencontre aujourd'hui avec une autrice dont l'œuvre en noir et couleur est d'une ampleur rare. Son dessin impressionne par sa précision et sa liberté dès les premiers regards. Un récit fantastique où l'imaginaire est dans chaque case. Son cinquième livre, « La tête de mort venue de Suède », est un hommage à René Descartes, scientifique et philosophe. Nous serons avec Daria Schmidt vers 14h15 pour découvrir toute la puissance de son imaginaire. À tout de suite.
Écriture dessinée.
En guise de brève, une citation. C'est pas toujours l'occasion, mais Christian Durieux, dans un entretien qu'il a fait pour Le jour avant le bonheur, qui est un des livres qui va encadrer La tête de mort venue de Suède de Daria Schmidt, il cite le propos de Brad Holland. Imaginez un écrivain dans une pièce, un artiste dans une autre, et la même mission est confiée à chacun. L'un écrit une histoire, l'autre la peint. Réunissez les deux, vous obtenez une œuvre plus riche que la somme de ses parties. Ce préambule, c'est juste pour vous dire que voilà la raison pour laquelle cette émission Écriture dessinée existe depuis un certain nombre d'années. Première virgule, les Shadocks. Je vais donc encadrer, comme à chaque fois, le livre de Daria Schmidt et cet entretien avec l'autrice, avec trois livres. Le premier, c'est une revue cartonnée qui se trouve donc en kiosque, et pas seulement, on peut le trouver aussi en librairie. C'est la série sur les coulisses d'une œuvre, celle de Hergé et de Tintin, avec donc les éditions Moulinsart qui sont à l'origine de cette série. Le numéro 7 vient de sortir, mi-septembre. Il est donc consacré à l'île Noire. Alors, c'est intéressant d'avoir les coulisses d'une telle œuvre que celle d'Hergé, d'une part pour avoir tous les contextes, et d'avoir aussi l'évolution de l'œuvre elle-même d'Hergé. C'est évident, il n'y a pas eu de reprise de Tintin, contrairement par exemple à Spirou, où on a même par exemple une série comme celle de Champignac qui complète la suite de la série Spirou écrite par différents auteurs. Donc, pour Hergé et Tintin, il y a donc des nouveautés qui arrivent avec ces coulisses d'une œuvre où le parti pris des éditions Moulinsart est de vraiment éclairer à partir des archives, et elles sont très conséquentes, les processus de création de l'œuvre d'Hergé. C'est assez passionnant parce que, je dirais même c'est passionnant, parce que d'une part les archives sont extrêmement complètes. Hergé très vite, et encore plus après le Lotus Bleu, a accumulé un très grand nombre de documents pour pouvoir être au plus près et des plus précis pour chacune des images qu'il pouvait écrire. Lorsqu'il dessinait un avion, cet avion avait un modèle, même s'il lui apportait quelques modifications, mais en tout cas, on était sûr qu'il pouvait voler. Alors, l'île Noire a cette particularité d'avoir eu plusieurs éditions, dont une qui a nécessité de redessiner le livre, puisque l'éditeur anglais trouvait que la version qui était adaptée de la première version de Marais Blanc de 1937 était quand même très décalée par rapport à l'évolution du pays et à la, au quotidien des Anglais. Et donc, Bob de Moor avait fait cette, avait redessiné, et il y a eu un changement important. Mais toute la partie précédente, toute la façon dont Hergé peaufine son intrigue, les repérages qu'il a pu faire, ses carnets, et là on a vraiment des reproductions de ces différents carnets. Les impressions de l'époque, avec souvent ces décalés, ces trames que l'on avait par exemple dans la revue Le Petit XXe. Il y a une iconographie très riche, très complète, et qui permet vraiment, tout au long de, ce, de ces coulisses d'une œuvre, de se rapprocher au plus près des contextes de la création de l'œuvre d'Hergé. Riyad Satouf considère d'ailleurs que Tintin est une des plus grandes bandes dessinées imaginées dans le monde. Il est carrément très élogieux. C'est un entretien qui, est, qui fait partie du Géo-Aventure consacré à Tintin. La qualité des reproductions permet vraiment de voir et notamment d'être au plus près des originaux, et ce n'est pas simplement une iconographie qui est tirée de l'album lui-même. Énormément de couvertures du Petit XXe permettent d'être pleinement dans cette œuvre. Il y a bien sûr cette partie sur la refonte, mais il y a également toujours, dans chacun des numéros qui sont déjà parus, les produits dérivés ou les hors-textes qui sont faits pour la réédition en noir et blanc, mais avec l'ajout de ces images pleine page, ou bien encore les puzzles. Et là, ça va en faire rêver quelques-uns. Il y a aussi un autre point très important, c'est toute l'évolution du lettrage. Comment ce lettrage a évolué jusqu'à être confié à un lettreur professionnel qui va faire un lettrage qui sera déposé. Et c'est lui qui aura réalisé les albums de Tintin que l'on connaît. Mais avant cela, il y a eu toute une évolution que l'on peut découvrir à travers ces coulisses d'une œuvre. Tintin plus Hergé, L'île noire, d'après les ouvrages de Philippe Godin, assisté de Dominique Maric, qui font partie donc des archives Hergé, et donc ce coulisses d'une œuvre, numéro 7, compte 108 pages, il est au prix de 20 euros. Et je voudrais suivre avec ce livre de Christian Durieux pour la partie dessin, de Didier Tronchet pour la partie adaptation et scénario. Et puis, l'œuvre dont est tirée Le jour avant le bonheur, eh bien, c'est celle d'Eri De Luca. Alors, c'est un récit qui montre déjà toute l'ampleur de ce que peut être une adaptation littéraire. Je vais vous citer les propos de Christian Durieux et pour que vous puissiez imaginer comment se passe la création d'un livre, d'un album de bande dessinée pour un dessinateur. Je cite. « Le jour avant le bonheur est un accident très heureux. J'étais blindé de travail. Je savais mes mois futurs très occupés. Je me retrouve dans un train avec mon cher éditeur, Sébastien Gnedig. L'air de rien, il me dit « Didier Tronchet est passé au bureau avant-hier et il m'a fait lire une belle adaptation de Le jour avant le bonheur de Eri De Luca. » J'écoute distraitement. Il ajoute. Didier m'a dit que l'illustrateur idéal pour cette adaptation, ça serait toi. Il continue. Je lui ai bien sûr dit que tu n'avais pas le temps. Il finit. En tout cas, j'ai le texte avec moi si jamais tu t'ennuies pendant le trajet. Didier De Luca, la sournoiserie affectueuse de Sébastien. Je lis ce qui devient, quelques minutes plus tard, une déflagration. Je veux le faire coûte que coûte. Il y a de l'enfance, l'amour, Naples, le presque huis clos, l'ombre et la lumière, une mélancolie paradoxalement lumineuse. L'écriture de De Luca. Il y a une autre évidence, je souhaiterais donner une corporalité à Eri De Luca, le représenter physiquement dans mes dessins. La figure du concierge s'est imposée très vite et c'est naturellement que je lui ai donné le visage de l'écrivain. Il est bienveillant, presque voyant, il est la parole lumineuse et réconfortante, il est De Luca. Lorsque vous ouvrez le jour avant le bonheur, on comprend beaucoup mieux l'enthousiasme de Christian Durieux. Il y a une mise en image qui cherche à être simple, au sens où l'image, chaque case, va porter une dimension de la narration pour que le récit soit d'une très grande fluidité, d'une très grande puissance, où la lumière dans chaque case va pouvoir rendre beaucoup plus intime et intense chacune des scènes. Il y a peu d'images par page. Les doubles pages donc sont très simples aussi. Voilà, par exemple, celle 6 et 7 où on va découvrir le visage d'une jeune fille qui va hanter cet enfant qui joue au football avec ses amis et qui va chercher un ballon sur le balcon d'où réside cette jeune fille. Il est fasciné par ce regard de cette jeune fille qui vit dans l'immeuble où il est et il va revenir régulièrement. Le concierge, donc Eri De Luca, va parler, raconter. Et il y a cette force où l'absence, puisque il l'a vu que quelques instants, mais l'absence suit. Et pourtant, l'image de cette jeune fille est là. Il y a une attente, il y a une gestion du temps qui fait que lorsqu'on va découvrir cet enfant devenu adolescent, eh bien, on a la sensation que cette attente a grandi avec lui. Il y a des évidences qui apparaissent sur la nature des sentiments, sur leur intensité, parce que il y a ce choix de donner à chaque image une portée, une profondeur qui fait qu'on est plus. On est aussi dans la contemplation de chacun de ses dessins. Le parti pris de la mise en couleur est aussi d'une grande efficacité parce que elles sont relativement simples. Elles apportent ces lumières et ces jeux avec les lumières. Il y a une pièce en sous-sol dans lequel va aller cet enfant qui a eu un occupant pendant une sorte de réfugié. Donc on va raconter aussi l'histoire de ce réfugié. Et à chaque fois que l'on avance dans ce récit, les lieux vont prendre une épaisseur et les personnages vont aussi pouvoir encore plus nous rapprocher d'eux et de leur histoire. C'est assez étonnant parce que Christian Durieux continue, poursuit cette exploration de l'écriture en bande dessinée et cette façon de chercher dans le découpage, de chercher dans la mise en couleur, dans le dessin, cette unité qui exprime au plus fort le récit d'Eri De Luca adapté par Didier Tronchet. C'est tout à fait le genre de livre, quand vous le terminez, vous reprenez un peu du début, vous refeuilletez, vous vous laissez de nouveau imprégner par différentes cases, vous captez les regards, vous voyez comment ils sont présents, comment ils illuminent la page, et celui d'Éric et Lucas, sous les traits du concierge, ce bleu des yeux de Lucas est tout simplement étonnant. Il reste. Une très belle adaptation. C'est tellement facile de se planter quand on adapte un roman. Là, il y a vraiment cette volonté que le dessin donne une autre œuvre. Et Didier Tronchet se sent comme passeur vers cette autre version du Jour avant le bonheur d'Éric et Lucas. Et en choisissant Christian Durieux, il ne s'est absolument pas trompé. Le jour avant le bonheur, d'après Éric et Lucas, adapté par Didier Tronchet et mis en scène et en image par Christian Durieux. Il a assuré aussi lettrage et mise en couleur. C'est publié par les éditions Futuropolis et les 80 pages de ce livre sont au prix de 17 euros et le livre a été imprimé en France. Musique. Depuis Ornimaniacs en 2017, l'œuvre de Daria Schmidt s'ancre dans un noir et blanc rehaussé de couleurs. Le lecteur est de suite accroché par la précision du dessin, son élégance, inventant de nouvelles réponses à des questions de dessin. Le récit, immergé dans le fantastique, développe un imaginaire de la même ampleur. Après l'hommage à Lovecraft de son bestiaire du crépuscule, Daria Schmidt nous invite une nouvelle fois dans un récit fantastique dessiné avec cette même intensité, la tête de mort venue de Suède. C'est celle de René Descartes. Son crâne a vécu une incroyable histoire posthume. L'autrice évacue le récit biographique, trop souvent encombré de poncifs et de vaines tentatives de mise en image d'une célébrité. Daria Schmidt en comptant le trajet du crâne de Descartes, père de la pensée moderne, jusqu'au Muséum national d'histoire naturelle, choisit le récit fantastique pour lui rendre hommage. À travers les spéculations sur les véracités de ce crâne, référencé encore aujourd'hui MNHN HA 19220, l'autrice retrace son trajet à travers un dialogue entre ce crâne de Descartes et ses voisins de musée, les admirables squelettes de nombreux animaux, de petits oiseaux jusqu'à celui de la baleine bleue, Balaenoptera musculus. Tarja Schmidt éclaire ainsi un des pans de la pensée de Descartes, l'animal-machine, distincte de l'homme, doué d'une pensée qu'il dissocie du corps, le rendant supérieur. Dans ces dialogues, les doutes de Descartes affleurent en permanence. Les dessins, toujours d'une extrême précision, ne s'autorisent aucune approximation, aucune simplification. Mettant en scène lieu, architecture, intérieur du musée, squelette des différents animaux, animant le crâne de Descartes. Un réseau de hachures fines modèle les surfaces, les corps. La scène de l'inondation du musée restera mémorable. Un dessin fantastique, réaliste, en noir et couleur, pour authentifier Descartes et ses doutes. Nous sommes avec Tarja Schmidt. Bonjour Tarja Schmidt.
Bonjour.
Alors, il y a vraiment une unité entre le dessin et votre récit. Et j'aimerais savoir comment, à la conception de cette histoire, la tête de mort venue de Suède, vous avez procédé pour... arriver à cette unité entre texte, image et mise en scène.
C'est un récit déjà longuement mûri, on va dire, parce que quand on est dessinateur, on termine un livre, c'est toujours des travaux au long cours, tout en réfléchissant au prochain. Il s'agissait... Le dessin, c'est quand même celui que je développe depuis Ornithomaniaque, comme vous l'avez dit. Et il s'accommode très très bien de récits à la croisée des chemins avec les sciences, puisque les anciennes planches anatomiques ou les dessins scientifiques extrêmement précis, voilà, moi je pense que je fais un peu écho à toute cette école de dessinateurs scientifiques.
Alors, maintenant, il y a la construction d'un récit sur René Descartes, sur... ce penseur, donc, qui a imaginé ce concept d'animal-machine, mais comment ça devient un récit en image? Qu'est-ce que vous avez écarté comme piste? C'est peut-être une façon de progresser vers les processus de ce livre.
Alors, l'histoire du crâne de Descartes, c'est déjà une histoire extrêmement fournie en rebondissements extrêmement... voilà, elle se prêtait à l'humour, surtout ces 300 ans de rebondissements non-stop sur le squelette, les ossements de ce grand penseur qui est constitutif, voilà, de la culture française. Donc, je voulais pas simplement retracer toutes ces péripéties, mais les contextualiser pour... le resituant au Muséum d'Histoire Naturelle et en resituant l'homme de la même manière dans l'histoire du vivant, puisqu'en effet Descartes était un des premiers qui différencie l'homme de l'animal, même si c'est pas lui qui a vraiment inventé la formule d'animal-machine. Il a en effet sorti l'homme du reste de la création en lui prêtant une âme qu'il est seul à posséder. Donc, ce qui était intéressant pour moi, c'était de recontextualiser. Ça a été un peu le fil rouge de cette histoire, et ça m'a permis d'élaguer, autour de cette colonne vertébrale. Par contre, tous les rebondissements, toutes les péripéties du crâne et des ossements de Descartes auparavant sont restitués. Mais l'essence des discussions, voilà, permet aussi une sorte de mise en abîme, comme ça, de la pensée de René Descartes.
Alors, je parlais de votre dessin, d'Aria Schmitt. Il y a notamment dans La tête de mort venue de Suède, une mise en scène des ossements, des squelettes, des nombreux animaux du Musée national d'histoire naturelle. Alors, quand vous partez dans cette direction, est-ce qu'il y a une sorte de défi de dire... bon, effectivement, c'est pas simple à dessiner, mais on a l'impression que vous y avez trouvé un enthousiasme assez étonnant, qui est très communicatif, hein, je vous le dis.
Oui, c'est vrai que c'était pas tout à fait facile au départ, mais bon, j'étais en résidence au Muséum d'Histoire Naturelle, donc j'avais la chance d'avoir des correspondants sur place qui pouvaient m'ouvrir les portes quand j'avais besoin de faire des tas de photos, parce que la grosse difficulté pour moi, c'était dans les dialogues entre les animaux et le personnage du crâne de Descartes. C'était les trois quarts d'eau, les squelettes de trois quarts d'eau. Alors, j'ai fait des longues séances de photographie de tous ces squelettes pour pouvoir un peu me les approprier. Et même si vous avez eu la gentillesse de dire que c'est un dessin tout à fait exact, sans approximation, moi, j'irai pas jusque-là. Mais disons que j'ai, en tout cas, voulu que tout ça soit vraisemblable. Mais si vous comptez le nombre et les côtes, je crois que vous y retrouverez pas.
Alors rassurez-vous, c'est pas ma pratique quotidienne, donc je pense que peu s'en apercevront. Donc poursuivre à la fois sur la résidence et sur l'écriture d'Aria Schmitt, comment procédez-vous ? Est-ce que vous faites un récit écrit avec éventuellement déjà une prévisualisation, ou est-ce que le dessin intervient assez vite dans votre écriture ?
Dans ce projet particulier, le dessin est intervenu assez rapidement, parce que j'ai fait une sorte de chemin de fer, on va dire. Donc un chemin de fer, c'est des toutes petites vignettes, grosses comme des timbres-poste, hein, préfigurant l'album. Et dessous, j'écrivais ce que j'attendais de la séquence, c'est-à-dire de la continuité de cinq vignettes. Et tout de suite après, une fois que ça tenait la route, séquence par séquence, je commençais déjà les dessins. Et il y avait une véritable interaction entre le montage des dessins et les dialogues qui étaient écrits, parce que c'est quand même un livre qui est extrêmement écrit. Il y a beaucoup, beaucoup de textes pour une bande dessinée, il y en a quand même pas mal. Et il fallait tout de suite mettre ça en musique, trouver la juste place de chaque chose. Donc c'est un livre qui s'est fait sur les planches, plus qu'en storyboard ou avec un scénario bien défini. L'interaction texte-image a dû être... J'ai construit ça tout de suite.
Et pour préciser sur les dialogues d'Aria Schmitt, comment les travaillez-vous ? Est-ce que vous les énoncez à haute voix pour leur justesse ? Il y a des moments, l'utilisation de rimes pour qu'ils soient plus fluides, plus proche. Comment cela se passe ?
Eh bien, déjà, il y a toujours une sorte de colonne vertébrale, ce que je veux qu'on apprenne à travers ce dialogue. Et puis, en effet, il y a plusieurs couches, hein, parce que je le crayonne sur les pages, je le relis à voix haute, et je trouve en général que c'est pas bien du tout. Donc, je recommence. Et je fais comme ça plusieurs lectures. Ça reste au crayon. Après, mon éditeur passait, je lui demandais si la lecture était fluide, s'il n'y avait pas de heurts, etc. Et après le regard de l'éditeur, je relisais encore une fois et très souvent, je changeais, je synthétisais. Donc, c'est resté des pages au crayon, le texte comme le dessin, assez longtemps avant de travailler l'ancrage. Pareil, je faisais relire les dialogues par les scientifiques du muséum, enfin certains dialogues, pour m'assurer que, en très peu de mots, ben, par exemple, je captais bien la controverse entre Lamarck et Cuvier, enfin, parce que c'est, voilà, on a très peu de place et il faut taper juste à chaque fois. Donc voilà, il y a un jeu de relecture voilà, très fréquent.
Daria Schmidt, qu'est-ce que ça a apporté, cette résidence, d'être au milieu de ces animaux et des squelettes de ces animaux? Comment ça a influencé votre écriture? Ça libère, bah ça libère de doutes?
Je ne sais pas si ça libère des doutes, mais c'est de très bonnes fréquentations, en tout cas, et c'est une chance. Le muséum est une sorte de lieu un peu magique. J'ai eu la chance de pouvoir visiter des réserves, de voir les coulisses un peu du muséum, d'être encadré donc par les gens qui le font vivre et qui m'ont donné accès à des archives, qui m'ont donné des trucs, parce que c'est quand même une grosse institution et très vivante, avec des scientifiques qui sont spécialistes dans leur domaine, mais qui connaissent le tronc commun. C'est une vraie culture de l'histoire du muséum. Donc ça a été voilà une aide considérable. Et est-ce que ça lève les doutes? En tout cas, voilà, on fait partie d'une grande famille. C'était un peu ce que je souhaitais pour mon personnage de Descartes, qui se sente en famille avec les autres vertébrés de la galerie d'anatomie comparée. Et pour moi aussi, c'était une plongée. Voilà, une sorte d'immersion qui était très nécessaire à ce récit.
Daria Schmidt, je vous propose le second morceau que vous avez choisi et on se retrouve donc dans quelques minutes pour parler peut-être un peu plus de dessin. À tout de suite. Call me a fool. Thank you. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Daria Schmidt, l'autrice de La tête de mort venue de Suède. Et cette tête de mort, c'est celle de René Descartes. Daria Schmidt, avant qu'on parle spécifiquement dessin, je voudrais qu'on évoque cette mise en scène. Et depuis Ornimaniacs, le nombre de cases dans la double page s'est réduit, donnant un peu plus d'espace, ouvrant aussi à des images, des grandes images, où il y a une image sur une page. Comment s'est fait cette évolution et pourquoi avoir donc réduit ce nombre de cases et avoir peut-être aussi plus d'espace pour le dessin?
Ornithomaniac, c'était construit en chapitres finalement, donc il y avait des têtes de chapitres qui étaient des pleines pages, et ensuite voilà, c'était une mise en scène. J'ai l'impression quand même que c'est pas une évolution, c'est plutôt une adéquation avec le projet. La tête de mort venue de Suède, il y a plusieurs strates narratives. Il y en a certaines qui sont vraiment du dialogue, de la mise en scène dans un lieu qui est un petit théâtre, c'est la galerie d'anatomie comparée. Et il y a des sortes d'envolées, c'est des grandes images sur lesquelles tous les personnages interviennent quelque part. Donc c'est comme si c'était des grandes plages, il y a beaucoup de rêves comme ça qui prennent tout d'un coup toute la place. Et qui viennent rompre aussi le rythme du dialogue et de l'échange. Donc c'est plutôt une mise en scène qui fonctionne avec ce projet, plutôt qu'une évolution, c'est-à-dire voilà. C'est pas trop quoi dire d'autre.
Il y a des mises en page, par exemple, qui sont plutôt propres au Muséum national d'histoire naturelle, où on a donc des cases qui sont assez inhabituelles, mais qui sont un peu spécifiques pour montrer les controverses, par exemple les échanges. Là aussi, il y a une adaptation de la mise en scène au récit.
Oui, c'est tout à fait ça. Et puis c'est aussi pour rompre ces cases immenses qui prennent tout d'un coup toute la page, et puis la tête de mort qui se glisse aussi de temps en temps et qui entre les cases comme ça. C'est tout le travail sur les voix, la voix du narrateur qui passe d'un lieu à l'autre, qui fait la transition finalement d'un lieu à l'autre. La bande dessinée permet ça, on peut tout à fait construire des pages tout à fait surprenantes. Moi, j'ai beaucoup été guidée par les voix. Donc, parfois, je mets la tête de mon personnage à cheval entre plusieurs images. Donc, ça rompt la structure, le bord des cases, pour qu'on comprenne bien que sa voix s'étend sur toute une séquence. Un travail presque de montage comme ça entre le son et l'image qui se prêtait bien à ce récit qui finalement fait de dialogue et d'une narration avec des flashbacks. Donc des fois la voix part dans le temps, des fois elle se projette dans une dimension onirique. Donc la construction des cases se fait autour du travail sur la voix, sur le texte.
Au niveau du dessin, il y a donc ce noir et blanc avec des situations de dessin franchement inhabituelles. J'ai évoqué les squelettes des animaux de cette galerie de l'anatomie comparée, mais il y a aussi les architectures, il y a le lointain où on peut avoir des cases de petite taille avec un arrière-plan qui sera détaillé, des vues de ville, jusqu'où acceptez-vous le défi du dessin? Quelles questions de dessin vous posez-vous, Daria Schmidt?
Alors, je pense que je suis, je n'arrive pas à laisser du vide. En fait, je suis un peu, voilà, guidée par ça. Je fais toujours tout le décor. Déjà pour la vraisemblance, pour essayer d'ancrer vraiment le récit. Et ben, j'aime beaucoup l'architecture. De toute façon, c'est mon background, donc j'y attache toujours beaucoup d'importance. Et quand on est en noir et blanc et avec ce travail de hachure, quelque part, il faut commencer par remplir l'espace de tous ces petits traits avant même de pouvoir les éclairer, de pouvoir avant de comprendre un peu mon dessin, j'ai besoin déjà de le pousser beaucoup, et après je mets un éclairage plus particulier sur la scène, mais avant de pouvoir l'éclairer, j'ai besoin d'avoir énormément de choses, d'avoir le lieu, quoi. Donc pour l'instant je suis pas dans l'ellipse du décor, hein. Je dessine tout. Et je trouve que ça donne beaucoup de chair au récit aussi.
Mais il y a des situations, par exemple, ces fenêtres avec donc une armature métallique, avec des carreaux relativement peu larges, la scène de l'inondation, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas... Je crois que ça doit être assez difficile à représenter. Et pourtant, on y est vraiment, on est dans l'eau avec les scientifiques, avec les membres du musée. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de dépasser certaines limites, de renouveler un peu les choses à maîtriser dans le dessin?
Non, je crois pas. C'est vraiment un goût du dessin, comme ça. Tous ces petits traits, ça devient un peu hypnotique. J'écoute la plume gratter le papier, et puis et voilà, je rentre dans un rythme un peu particulier. Et quant à cette scène là de l'inondation, là, il y a beaucoup de licence artistique, parce que quand même, au deuxième étage du muséum, l'eau n'a pas pénétré. Ils étaient qu'au premier étage. Mais voilà, c'est aussi de la mise en scène, essayer de pousser un peu le bouchon pour créer une fiction qui serve mon propos. Mais voilà, je suis guidée par le désir de vraisemblance, et je cherche beaucoup de documentation avant de travailler. Donc la recherche iconographique prend pas mal de temps, surtout dans ce récit-là, puisqu'il court quand même sur 300 ans d'histoire, dont un bon bout de temps sans l'aide de la photographie, mais plutôt j'ai fait la pêche aux gravures, aux tableaux. Et une fois que je possède toute cette iconographie, ben ça me facilite grandement les choses, mais je vais presque au bout de ce que je vois de la doc que je possède. Voilà.
Quelle dessinatrice êtes-vous, Daria Schmidt? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Est-ce que c'est le calme? Est-ce que c'est vraiment avec une sorte de maîtrise du trait? Est-ce qu'il y a des envies d'être plus à l'énergie? Comment ça se passe?
Ah non, moi c'est plutôt le chaos, hein. C'est un peu le bazar. Je travaille en général 10 pages ensemble. Je passe de l'une à l'autre. Il n'y a pas vraiment de maîtrise du trait, comme je vous l'expliquais. C'est je dessine jusqu'à ce que je comprenne. Voilà. Donc je ne sais pas forcément où je vais. J'ai besoin de mettre beaucoup, d'essayer beaucoup de choses. Et après, j'éclaire mon dessin. Je reprends avec une lame, je gratte le noir, je rééclaire certaines zones. Donc, c'est pas la maîtrise, c'est vraiment de la recherche. Jusqu'à ce que je sois satisfaite et jusqu'à ce que tout d'un coup, la scène prenne sens. C'est le contraire, je crois, d'un dessin complètement maîtrisé, visualisé. C'est le travail qui me donne un peu la route à suivre.
Et la couleur?
La couleur intervient vraiment À la toute fin, quand les pages en noir et blanc sont déjà très cohérentes, pour détacher un peu toutes les strates narratives qui sont quand même nombreuses dans ce récit, eh ben je passe mon trait noir en couleur, mais là c'est un travail que je fais sur Photoshop à la toute fin, voilà. Et ça donne, ben voilà, ça peut, on peut voir quand les animaux qui sont squelettiques reprennent un peu de chair lors des séquences oniriques, ça se passe en couleur, on passe dans une autre dimension. La dimension historique aussi, elle est indiquée par la mise en couleur des phylactères, c'est-à-dire des textes. Voilà, il y a un jeu comme ça entre la couleur et le noir et blanc pour aider le lecteur à distinguer bien où il se situe chaque strate narrative.
Alors il y a dans, je crois que c'était le Ornimaniacs, il y avait ce personnage du bec en sabot.
Oui.
Et là, il y a le dodo.
Oui.
Et donc, il y a un plaisir particulier à dessiner ces oiseaux hors normes.
J'aime énormément dessiner les oiseaux. Dans Ornithomania, il y a aussi un magnifique pélican. J'adore dessiner les oiseaux, mais c'était pas juste pour me faire plaisir. Ce fameux dodo, c'était un peu, c'est devenu l'emblème de la disparition animale, et comme c'est un peu de ça que parle la tête de mort venue de Suède aussi en filigrane. Donc c'était une façon de faire ressurgir, voilà, le sous-texte. Donc il y a cet énorme dodo, emblème d'une disparition animale, chevauché par le squelette, par le fantôme de René Descartes, qui est un philosophe, comme on n'en fait plus non plus, puisqu'il était vraiment à la charnière entre... c'est le père de la modernité, il était à cheval entre les sciences, la philosophie, la physique, enfin... Donc c'est aussi une espèce en voie de disparition quand même.
Merci beaucoup Daria Schmidt. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre « La tête de mort venue de Suède » est donc publié par les éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Les 120 pages de votre récit, il y a un cahier complémentaire de 18 pages avec différents textes très éclairants sur Descartes. Et ces 120 pages sont au prix de 25 euros. Le livre a été imprimé en Belgique. Très bonne continuation, Daria Schmidt, et merci d'avoir répondu.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Je voudrais terminer avec une série récente. Le deuxième tome vient de sortir. Elle s'appelle Tokyo Mystery Café. Elle est écrite et dessinée par l'atelier Sento. L'atelier Sento, c'est deux personnes, c'est un duo, Cécile Brun et Olivier Pichard. Ce qui est important et intéressant dans cette nouvelle série, c'est les partis pris de départ pour qu'il y ait une matière vraiment à développer une histoire. Tokyo Mystery Café, c'est un endroit qui est une sorte de restaurant dont le patron est aussi détective privé et enquête. Le premier tome, La disparue d'Akiba, est donc suivi récemment par Les ombres de Jimbosho. Akiba et Jimbosho, c'est deux quartiers de Tokyo. En fait, il y a dans ce parti pris de départ, parce qu'on va imaginer que le livre, le troisième, ben, ça sera sur un autre quartier. C'est que Cécile Brun et Olivier Pichard sont passionnés par le Japon. Ils y sont allés, ils sont restés longtemps pour pouvoir donc s'immerger dans ces différents quartiers et développer une intrigue qui soit aussi caractérisée par le fonctionnement différent d'un quartier à l'autre. Et c'est tout à fait réussi. Ils ont choisi comme personnage central, un des personnages centrales, c'est Naël, qui arrive au Japon pour être mangaka, qui va aller voir une maison d'édition, un auteur, en espérant pouvoir devenir son assistant et ainsi démarrer une carrière de mangaka. Et finalement, dans ce premier tome, il sera très vite immergé dans une intrigue. Ça fonctionne. Dans le deuxième tome, Les ombres de Jimbosho, le récit va être aussi va tenir ses promesses. Le voici. L'automne s'annonce difficile pour le Mystery Café. Naël, Soba et le patron sont contactés par le PDG d'un célèbre magazine de manga. Les pages du Weekly Moon ont été falsifiées et les héros de ces séries à succès assassinés. L'enquête des trois amis les entraîne rapidement dans le quartier littéraire de Jimbosho, sur les traces d'une mystérieuse tueuse aux cheveux blancs. Ils doivent résoudre cette affaire au plus vite, car le temps est compté avant la publication du prochain numéro. Mais les secrets du passé de l'un des membres du Mystery Café pourraient bien les mettre tous en danger. Donc c'est là où le duo de l'atelier Sento se montre très efficace, c'est qu'il va rapidement camper les personnages, ils ont une épaisseur, mais à chaque fois il y a une exploration, une révélation sur la personnalité des uns et des autres, et notamment celle du patron qui va se trouver au centre de cette nouvelle histoire. Le patron, c'est donc celui qui est à la fois détective privé et restaurateur. Cette intrigue est d'autant plus intéressante qu'elle nous rapproche des éditions de manga, et là sont évoquées les principales maisons d'édition les plus importantes qui sont dans ce quartier de Jimbosho, et on est vraiment dans cette partie de la bande dessinée mondiale qui fascine tant et qui est donc une part importante de l'édition, par exemple en France comme dans beaucoup d'autres pays. Un autre intérêt de la série, c'est que l'atelier Sento ne s'est pas dit « on va faire du sous-manga ou de façon manga à la manière d'eux ». Il garde cette approche de la bande dessinée franco-belge avec ce grand format, ce traitement de la mise en scène, l'utilisation par exemple du 4-bandes. Il y a parfois une fragmentation de l'image un peu excessive, mais dans l'ensemble, il y a une fluidité dans la lecture qui est recherchée et qui est aussi d'une grande efficacité. C'est adossé aussi à un traitement graphique qui est un traitement classique avec ce travail de contour, d'utilisation d'une physionomie réaliste pour les personnages, pour leur gestuelle. Il y a vraiment une recherche pour qu'on soit dans leur proximité. Le spectateur est placé à hauteur d'yeux vers les scènes qui sont dessinées et on suit les personnages, on va les accompagner, et la lisibilité du dessin, l'efficacité du trait, les expressions qui sont appuyées avec cette fonction que permet le dessin en bande dessinée de marquer la stupéfaction ou avec une bouche ouverte, comme l'importance de certains propos. Mais ça fonctionne très bien. Il y a un travail sur la reconnaissance, sur les expressions, sur cette façon d'être précis dans les regards. Il n'y a pas Dieu réduit simplement à un point, mais donc l'utilisation de cette représentation de l'œil entier pour que ça soit d'une grande efficacité. Les deux points fonctionnent très bien ici, mais là, le parti pris est plus réaliste et donc ses yeux en amande fonctionnent aussi très bien. Il y a le travail de la couleur, de la lumière, avec des variations importantes, des unités de ton, une sorte de déclinaison de quelques couleurs sur une double page, par exemple. Ce travail aussi de la lumière qui anime les différents visages, et c'est très, très précis, très efficace. Et puis on est dans la ville de Tokyo, et donc là, ce travail sur la ville, eh bien, il n'hésite pas à y aller pour représenter cette ville de buildings, de grands immeubles, mais aussi des petites ruelles de Jimbosho, où il y a une vie littéraire importante, des bouquinistes, des libraires, des éditeurs, et être au plus près de ce niveau du sol dans cette très grande ville de Tokyo. C'est une excellente surprise parce que l'atelier Sento s'est autorisé aussi aucune simplification. On a vraiment creusé leur approche, le concept de la série pour le développer et lui donner cette ampleur que l'on découvre avec ces deux titres. Donc c'est sorti le 12 septembre, Tokyo Mystery Café, Les Ombres de Jimbosho. C'est donc réalisé par l'atelier Sento pour l'ensemble des postes de création d'une bande dessinée, scénario, mise en scène, dessin, couleur, lettrage. Le livre est publié par les éditions Dupuis. Les 80 pages sont au prix de 17,50 € et le livre a été imprimé en France. Merci Fabien pour cette technique et on se retrouve la semaine prochaine. Très bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.